Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Nous allons partir en montagne pour nous intéresser à la stratégie et aux guerres de montagne. Je reçois cette semaine le colonel Cyril Becker. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflits. Vous êtes actuellement chef d'état-major du service militaire volontaire dont nous reparlerons à la fin de l'émission pour expliquer ce que c'est et ce qu'ils font. Mais avant cela, vous êtes issu de l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Vous avez été engagé dans plusieurs opérations, notamment dans les Balkans et en Afghanistan. Et vous êtes également docteur en histoire. Vous avez réalisé une thèse sur l'histoire militaire, l'alpinisme militaire. Et vous venez de publier aux éditions Pierre de Taillac les plus grandes batailles en montagne de l'Antiquité à nos jours. Nos éditeurs connaissent l'édition Pierre de Taillac consacrée à l'histoire militaire, qui fait toujours des livres qui sont extrêmement beaux à lire et à feuilleter avec de nombreuses illustrations, avec des cartes. Et donc cet ouvrage, les plus grandes batailles en montagne, dont vous pourrez retrouver toutes les références sur le site de Conflits, n'échappe pas à la règle. Et notamment, ce sont très précieuses les cartes qui permettent de comprendre comment les batailles sont organisées. Alors la montagne, c'est un terrain militaire qui est assez particulier. On connaît bien évidemment la bataille navale, on en parle beaucoup. La bataille de plaine, c'est les principales batailles qui sont évoquées. Mais la bataille en montagne, c'est plus compliqué. On a un terrain qui est escarpé, avec des oscillations de température également qui sont prises en compte. Et ce que vous montrez dans cet ouvrage, vous avez choisi quelques batailles, enfin les plus symptomatique, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois, ça nécessite une maîtrise à la fois du terrain et de la stratégie qui est assez grande. Et vous commencez sous l'Antiquité avec notamment les batailles d'Hannibal, on a les Thermopyles, il y a Alexandre le Grand, et puis vous allez jusqu'aux batailles de Tora Bora en 2001, donc début 21e siècle. Est-ce que dans ces batailles que vous présentez dans votre ouvrage, est-ce qu'il y a des points communs dans la manière de faire la guerre en montagne, de l'Antiquité à nos jours, ou est-ce que les évolutions techniques ont complètement modifié l'approche du terrain ?
Alors, il y a effectivement des points communs qui sont tout d'abord la réflexion intellectuelle et puis l'approche du milieu. C'est-à-dire que tout chef qui se rue en montagne, qui ne réfléchit pas sur l'approche de son milieu et sur les moyens et les hommes à y employer, forcément va se heurter à un obstacle. Donc on le voit, c'est un des points essentiels qui est un des fils rouges que l'on trouve tout au long de l'étude des batailles en montagne.
Alors, en géopolitique, on étudie évidemment les milieux, donc les plaines, les montagnes, et souvent la montagne, c'est un petit peu la zone de réduit, où c'est la zone où se réfugient des troupes non conventionnelles, parce qu'elles sont protégées justement par le terrain. C'est souvent le lieu où se réfugient les maquis, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, ou bien où se réfugient des personnes qui sont chassées, souvent des dissidents. Donc c'est un endroit que les troupes officielles ou les armées conventionnelles n'aiment pas trop. Est-ce que dans l'histoire, il y a eu des batailles de montagne qui ont été décisives pour gagner des guerres, ou est-ce que c'est une zone que les armées conventionnelles essayent toujours d'éviter parce que trop compliquée à mener des opérations ?
Alors, on a coutume de dire que la montagne n'est jamais le théâtre principal d'un conflit de niveau stratégique. Mais en revanche, c'est grâce parfois aux montagnes qu'on peut gagner des conflits secondaires qui amènent à la victoire d'un chef. Mais je reviens parce que votre tableau était très intéressant sur la description des montagnes. La montagne, au début, ça a été aussi une place principale dans les religions. Donc on sait Zeus sur sa montagne, et puis d'autres religions l'ont bien utilisé. Ça allait jusqu'à l'hérésie cathare, hein, les cathares et les albigeois se sont réfugiés en haut d'une montagne. Ça a été un lieu de contestation du pouvoir central par les mouvements rebelles. Longtemps, des années et des années, on a vu ça à Abdelkrim, dans le Rif au nord du Maroc. Et puis ça a été parfois des abris éternels où personne n'arrive à extraire les dissidents.
Et dans les batailles que vous présentez, alors il y a le Thermopyles, il y a également Alexandre le Grand, on en reparlera, on verra un petit peu en détail certaines batailles, il y a la bataille de Turkheim. On voit qu'il y a quand même de très grands chefs de guerre qui se sont illustrés et qui ont fait preuve d'une opération stratégique majeure.
Oui, Oui. Je veux dire, c'est presque dans le CV des grands chefs de guerre de s'illustrer un moment en montagne. On parle de Jules César qui a vécu quelques défaites. On peut remonter un petit peu en arrière avec Hannibal, qui, par sa traversée des Alpes et puis son embuscade sur le lac de Trasimène, ont fait des exploits exceptionnels. On peut aller sur d'autres continents, comme en Amérique du Sud, San Martín, qui a traversé les Andes. Et puis, bien évidemment, on a Napoléon en Espagne avec la bataille de Somosierra. Plus récemment, sur la dernière guerre mondiale, le général Olry qui s'est illustré sur la bataille des Alpes en mai 40, et puis le général Juin avec la fameuse bataille, les fameux combats de Garigliano.
Alors vous-même, comme vous êtes rattaché aux chasseurs alpins, vous avez combattu en montagne. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la guerre en montagne, la bataille en montagne par rapport à une bataille de plaine? On dirait, ben, il y a le relief, forcément, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui font que cette manière de faire la guerre est vraiment différente et suppose aussi des troupes adaptées?
Alors, il y a l'approche d'abord du terrain, c'est-à-dire que du terrain, des conditions météorologiques, du climat. On parle souvent de la vigueur du relief et de la tyrannie du terrain. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué, entraîné à combattre en montagne, peut y échouer très rapidement dès que les conditions météorologiques ou les conditions climatiques ou les conditions d'altitude et de relief changent. Ensuite, il y a la perception du combat en lui-même, c'est-à-dire que en plaine, vous tirez de manière horizontale. En montagne, on ne tire que en inclinaison verticale. Il y a l'influence du climat sur les matériels qu'il faut savoir prendre en compte. C'est-à-dire que vous n'entretenez pas des fusils, vous n'entretenez pas de l'armement à moins 20 degrés en altitude comme vous le faites en plaine ou comme on le fait en Afrique ou dans un climat un petit peu plus océanique. Par ailleurs, il y a aussi ce qui est très important à mon avis. Dans le combat en montagne, c'est la subsidiarité de chacun des niveaux de combat. Pourquoi ? Parce que le terrain est très compartimenté. D'un mouvement de terrain à l'autre, d'un vallon à l'autre, et ben il faut entraîner parfois jusqu'à des petites équipes de 3-4 hommes qui sont commandés par des caporaux ou des sergents, jusqu'à des compagnies commandées par des capitaines. Et ben il faut que chacun à son niveau ait cette subsidiarité et cette autonomie dans le combat en montagne.
Et ça suppose également la question des transmissions et de l'information entre les différentes troupes.
Oui, absolument. Oui.
Aujourd'hui, par exemple, vous étiez en Afghanistan ou dans les Balkans. Quand vous êtes en opération, comment s'articulent les relations avec les autres éléments de l'armée, par exemple l'aviation ou les troupes qui sont restées en plaine?
Alors aujourd'hui, avec les moyens satellitaires, on est un petit peu moins fixé à de la communication, à des éléments de télécommunication tels qu'on les avait encore une trentaine d'années. Donc chaque détachement est très souvent équipé, notamment en Afghanistan, on appelait ça des Touraya ou d'autres dispositifs de transmission satellitaire.
Alors vous étiez rattaché, vous êtes toujours rattaché aux chasseurs alpins, donc c'est-à-dire que la France a développé un système d'armée spécifique à la zone montagneuse. Est-ce que ça a toujours existé ou est-ce que c'est assez récent dans l'histoire? Dans les États ont toujours eu des troupes pour la marine et puis des troupes pour l'armée de terre. Donc là, la distinction était nette. Mais avoir des armées spécifiquement dédiées à un type de relief, à un type de terrain, est-ce que ça s'est toujours fait ou est-ce que c'est assez récent dans l'histoire militaire?
Alors de manière organisée telle que ça l'est dans nos armées modernes, c'est très récent. Alors il y a eu, si on fait un rapide panorama historique, il y a eu tout au long de l'histoire des troupes spécialisées, mais de manière très ponctuelle, où le roi, l'empereur, tel chef de guerre levait des troupes pour aller combattre en montagne. Souvent, c'était des troupes dites du pays et des hommes habitués à se déplacer, à vivre en montagne. Les troupes de montagne françaises, elles, ont été créées il y a 132 ans, donc par la loi du 24 décembre 1888, qui a organisé les troupes de montagne françaises en leur donnant un équipement, des structures particulières et puis des commandements particuliers. Et ce qui fait que dans 132 ans, les troupes de montagne se sont progressivement formé toujours sur le milieu. Et puis, les troupes de montagne ont donné quand même 150 000 morts pour la France, hein, pour le service des armes de la France.
Alors, avec le colonel Pierre Santoni, nous avions réalisé une émission sur la guerre en ville, que nos éditeurs peuvent retrouver, qui a d'ailleurs publié aussi un ouvrage aux éditions Pierre de Taillat, qui montrait comment la guerre en ville crée une sorte d'asymétrie parce que le partisan a une efficacité qu'il n'a pas en plaine. Est-ce qu'on peut faire une relation aussi avec la guerre en montagne où, alors on a un relief qui est un peu différent, ce ne sont pas des bâtiments, mais il y a aussi un effet de 3D et là aussi un partisan, quelqu'un avec peu d'équipement mais une très bonne connaissance du terrain, une très bonne endurance, peut tenir tête aussi à des troupes plus conventionnelles et moins adaptées au terrain.
Oui, alors il y a beaucoup d'analogies entre le combat urbain qui est très cloisonné, le combat en montagne qui est lui aussi très cloisonné. Bon, un combattant, un chasseur alpin, un cavalier de montagne, un artilleur de montagne, c'est un combattant qui est apte à s'engager sur tout type de terrain, que ce soit en plaine, en milieu urbain, désertique, mais il s'entraîne plus principalement en montagne. Or, effectivement, lorsque l'on voit sur les tirs fichants ou figeants, du haut vers le bas, du bas vers le haut, l'emploi des armes dans des compartiments restreints, il y a ces similitudes avec le combat en milieu urbain qui est assez intéressante.
Et autre élément, enfin vous avez évoqué la guerre en zone désertique. Est-ce que si on fait la guerre, par exemple, dans le Rif, où là, c'est la chaleur qui est présente, est-ce que c'est le même type de combat que, enfin, dans la stratégie, hein, j'entends, que dans des montagnes type Alpes ou Alpes balkaniques?
Alors, le même type, non, parce que c'est beaucoup plus ouvert comme terrain, même si c'est très rocailleux. On a dans les Alpes un terrain qui est plus boisé. Ce qui est intéressant en revanche, c'est le commandement humain, que ce soit donc sur un terrain comme le Rif, que ce soit au nord du Mali. Mais on va trouver exactement les mêmes raisonnements en Guyane lorsque l'on progresse de différentes criques en différentes criques sur des terrains très vallonnés. Le commandement humain, le souci de l'aspect humain, donc de préserver ses personnels, ses matériels, est le même, je pense, pour le chef militaire, qu'il soit dans le Rif, au nord du Mali, en Guyane sur des terrains escarpés ou en montagne.
Et aujourd'hui, les troupes de montagne dans l'armée française, qu'est-ce que ça représente en termes d'hommes, d'équipement, de déploiement aussi sur les théâtres d'opération?
Alors tout d'abord, c'est le vivier d'expertise montagne et grand froid de l'armée de terre. Donc il y a un vivier qui s'appelle la 27e brigade d'infanterie de montagne, avec un général à sa tête qui est l'expert montagne et milieu grand froid auprès du chef d'état-major de l'armée de terre. La 27e BIM appartient à la 1ère division Scorpion, qui fait partie de la force opérationnelle terrestre. Et elle compte, je vous le disais, 6700 hommes et femmes et à peu près 1300 réservistes. Elle est composée de différentes unités, 3 bataillons de chasseurs alpins, donc en Savoie, Haute-Savoie et en Isère, un régiment d'artillerie de montagne, un régiment de cavalerie de montagne, un régiment étranger de génie. Et puis elle a des unités un peu particulières, comme un centre de formation initiale, ce qu'on appelle le CEFIM 6e BCA, qui forme nos jeunes recrues. Elle a un groupement d'aguerrissement montagne à Modane, en Savoie. Et puis deux écoles ou deux entités à part, l'école militaire de haute montagne, qui forme tous les cadres aux techniques de la montagne et au combat en montagne. Et ensuite le groupe militaire de haute montagne, qui lui réalise des exploits hors normes dans des conditions parfois extrêmes, et qui est un peu notre vivier d'ultra experts de la haute montagne dans des conditions grand froid très particulières et qui nous testent nos matériels. Donc tout le vivier innovation se situe au sein de ce groupe militaire de haute montagne. Du groupe militaire de haute montagne. Et justement, j'ai oublié aussi, au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne, vous avez les groupements commando montagne qui sont 210 combattants vous parliez des engagements, qui sont abonnés sur les luttes contre les groupes armés terroristes, notamment au Mali en ce moment.
Est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe qui ont cet équivalent de chasseurs alpins, c'est-à-dire des troupes dédiées spécifiquement au combat en montagne?
Alors, il y a beaucoup de pays qui ont des troupes dédiées au combat en montagne. On pense au Gebirgsjäger en Allemagne ou en Autriche. On pense aux Alpini en Italie. Mais aucune a développé de manière aussi extrême et aussi pointilleuse le savoir-faire du combat en montagne, de la vie sur le milieu montagnard, et puis la technicité de tous les cadres. Vous avez dans une section d'infanterie et de chasseurs alpins, vous avez un caporal qui est chef de cordée, vous avez un sergent qui est chef de détachement de haute montagne, vous avez un lieutenant qui conduit son détachement qui lui aussi, et beaucoup passent, la plupart passent justement par l'école militaire de haute montagne. Donc nous, on pousse la formation au combat en montagne et la formation de montagne vraiment au plus haut niveau, et ce qui nous donne une brigade d'excellence, mais je pense même dans le monde.
Et pourquoi est-ce que la France, en 1886, a ressenti le besoin ou la nécessité d'avoir une troupe de montagne spécifique? Et pourquoi ne pas avoir eu simplement des troupes militaires, armées de terre, enfin un petit peu dédiées, mais sans avoir véritablement quelque chose de spécifique? Est-ce qu'il y avait, c'était vraiment une nécessité? On s'est rendu compte que d'un point de vue stratégique, il fallait véritablement avoir des troupes dédiées au combat en montagne?
Oui, complètement. Alors, c'est sûr qu'après 1870, tous les efforts de la France s'est tourné vers l'Est. Et puis, on allait... ça n'a rien de péjoratif, mais on allait se divertir dans les colonies aussi pour faire autre chose. Et puis à partir de 1870, les rapports avec l'Italie se sont beaucoup tendus, notamment à partir de 1879, date de création des Alpini, où là, les généraux italiens et l'état-major italien a vraiment militarisé toute la frontière alpine. Et donc il a fallu quelques figures, notamment un député, Monsieur Cézanne, député des Hautes-Alpes, un commandant à l'époque et général ensuite, le général Harver, pour alerter le Parlement de la menace italienne face à notre frontière des Alpes et l'obligation de créer des unités spécialisées prêtes à venir se déployer sur les cols tout au long de la frontière des Alpes, entre la zone qui était à l'époque démilitarisée, donc du Gine, jusqu'à Nice.
Donc ça correspondait effectivement à une réponse à une menace.
Oui, complètement. À une menace et puis à des relations diplomatiques qui se tendaient beaucoup. Alors il y avait l'histoire de les histoires de Gênes avec la marine italienne et puis plein de petits incidents diplomatiques qui ont tendu les relations entre la France et l'Italie.
Alors on va voir maintenant quelques batailles de l'histoire et puis on va commencer par le général Olry, justement, puisqu'on évoquait les relations tendues entre la France et l'Italie. Lors de la campagne de France en mai 1940, l'armée des Alpes a combattu justement contre les Italiens et ça fait partie des victoires françaises durant cette campagne qui s'est soldée par une défaite finale. Mais il y a eu ces combats de l'armée des Alpes. La situation de l'armée française en 1940 dans les Alpes, c'est combien d'hommes ou de divisions à peu près? Enfin, quel est l'état des rapports de force par rapport à la position italienne?
Alors l'armée française dans les Alpes aux alentours de mai 40 est assez distendue et on a des différentes troupes qui s'entraînent sur les frontières. On a des éléments qui sont retirés, notamment les sections d'éclaireurs skieurs parce qu'elles vont partir en Norvège, donc pour une partie des troupes françaises. Et puis progressivement le commandement enlève les différentes unités qui sont en place et restreint au minimum les forces françaises sur la frontière des Alpes. Elle laisse principalement toutes les troupes alpines qui sont en place, à l'exception, je le disais, d'une partie des SES et de certaines unités qui iront ensuite en Norvège.
Le général Olry, c'est un nom qui n'est plus connu aujourd'hui, on en parle pas trop, même pas du tout, il est connu peut-être des experts militaires, mais alors c'est quelqu'un qui a quand même à son crédit une victoire militaire en mai 1940, il a disparu, disparu de la mémoire. Et lui, c'est un pur produit des chasseurs alpins, ou c'est quelqu'un qui est arrivé là par le fait de décodifier différents commandements?
Oui, il connaît bien le milieu montagnard. Il s'est entraîné aussi en montagne, et le général Olry a fait partie de ces chefs qui comprennent la nécessité d'avoir des unités autonomes créées en demi-brigade avec des secteurs privilégiés partagés et puis un front qu'il ne laisse pas figé sur un seul niveau. Donc il fait une préparation de ses troupes en profondeur de son dispositif tout en restant couvert, notamment face à l'ouest et puis face au nord, une possible avancée allemande. Donc le général Olry connaît très très bien son dispositif.
Et ensuite, pendant la guerre, on évoquait la résistance et les maquis. C'est aussi une forme de combat en milieu montagneux. Et là, on a vu les maquis qui ont pu fixer une partie importante de l'armée allemande.
Oui, les maquis qui, peut-être pas une partie importante, mais qui ont su à un moment former des troupes L'immense majorité des maquis, alors on parle du 6e BCA Vercors, 27e BCA aussi sur le plateau des Glières, l'immense majorité des maquis étaient formés de cadres anciennement de l'armée d'armistice ou des bataillons de chasseurs alpins. Et ces cadres-là ont su désorganiser les arrières ennemis au moment où il le fallait. Mais pour revenir sur Ulrich, ce qui était intéressant, lui, c'était surtout son organisation stratégique du front des Alpes. Alors, on parlait en début d'interview de cet aspect qui n'est pas primordial dans la victoire d'une armée. Et c'était vraiment un front secondaire qui a pu alléger le front principal de l'armée française qui était à ce moment-là dans le nord de la France.
Alors, autre bataille, la guerre d'avant, la bataille de Manès en juin 1915. Là, nous sommes dans les Vosges, donc c'est contre les Allemands. Là aussi, on a une bataille militaire qui est assez remarquable. D'ailleurs, vous l'avez retenu dans votre ouvrage consacré aux grandes batailles montagneuses. En quoi cette bataille est intéressante aussi d'un point de vue stratégique et puis dans la Première Guerre mondiale également?
Alors, cette bataille a cette particularité de faire partie d'un nœud stratégique, parce que les Vosges, c'est quand même le premier théâtre sur lequel les jeunes troupes de montagne françaises organisées en 1888, nous en avons parlé, sont déployées. Un vrai terrain montagneux, difficile, enneigé, où les chasseurs alpins sont parsemés à droite à gauche dans des toutes petites demi-brigades, chacune à la tête d'un général, à sa tête un général. Et le capitaine Manès, il est sur l'Ilsenfirst, qui est un nœud stratégique pour empêcher les avancées allemandes sur la partie ouest des Vosges. Il y a l'Ilsenfirst, il y a aussi l'Hartmannswillerkopf, donc des noms qui sonnent, qui sonnent bien sur des noms vosgiens qui sonnent bien sur la Première Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que de cet aspect stratégique, de ces nœuds stratégiques, découle aussi une petite bataille tactique qui illustre bien comment se battre en montagne. Manès, qui est encerclé de toutes parts, regroupe ses éléments autour d'une source, donc préservation de ses effectifs, parce qu'il ne sait pas combien de temps il va rester. Il organise des navettes, il fait parler ses hommes en patois pour que les Allemands ne les comprennent pas. Et puis, il résiste pendant 3 jours face à toutes les agressions allemandes parce que ces hommes sont soudés, ils ont le sens de la patrie et ils ont cette envie de ne pas tomber, de ne pas succomber aux attaques allemandes. Ils en vont même jusqu'à jeter des pierres lorsqu'une patrouille allemande arrive au plus près de leur système défensif. Et les Vosges, c'est vraiment une guerre de montagne telle que assez caractéristique des petits échelons. Pourquoi ? Parce que c'est des coups de main rapides et des deux côtés de la ligne de front. Même Erwin Rommel, qui s'est illustré dans le désert plus tard, a fait ses premières armes dans les Vosges face aux Français avec des petits coups de main qu'il organisait quand il était le jeune lieutenant.
Et là, on a un exemple de guerre de mouvement. En 1915, où le front s'est un peu arrêté et on est davantage dans une guerre de tranchées, mais à travers cette bataille, on est dans une forme de guerre de mouvement.
Oui, des petits mouvements, et puis surtout dans une guerre d'adaptation. C'est-à-dire que dès qu'il y a une trouée ou dès qu'il faut renforcer différents dispositifs, la maniabilité de ces petites équipes ou de ces petites compagnies alpines fait qu'on peut que le chef tactique ou le chef opératif sur le terrain peut très très vite modeler son dispositif. Ce qui n'est pas le cas sur les gros bataillons, les gros régiments tels qu'ils existaient en plaine en France à cette époque-là.
Il y a une question alors pour cette bataille, mais pour toutes celles de montagne, c'est celle du transport du matériel. Transporter des armes de poing, c'est assez aisé, mais dès qu'il faut transporter des canons, ça suppose soit des charrettes ou maintenant des engins motorisés. Mais comment on organise, par exemple, au cours de cette bataille ou dans d'autres batailles, le transport de matériel dans un relief qui est extrêmement escarpé?
Pour le coup, il y a eu aucun invariant, enfin ça n'a pas changé depuis l'Antiquité jusqu'aux années 1950-1960. Tout se faisait à dos d'homme, à dos de mulet ou à dos de cheval. Il y a une des batailles, celle du Scub, qui parle un petit peu de la pénétration du 4e régiment de chasseurs après la victoire de Dobropolier dans les chemins et les sentiers de chèvres, où tout le matériel et tout l'armement se transportent à dos de mulet ou à dos d'homme.
Alors, autre bataille que vous avez sélectionnée, celle de Turckheim. Nous sommes là au XVIIe siècle, en 1675. Et d'ailleurs, c'est Enfin, dans votre ouvrage, vous avez recensé les principales batailles. Il y a des batailles de l'Antiquité. Il n'y a pas de bataille à l'époque médiévale. On retrouve ensuite, on se retrouve à l'époque moderne. Alors, vous avez indiqué une bataille pendant les croisades, où c'est effectivement une zone de montagne. Mais sinon, l'époque médiévale n'a pas été propice à la guerre en montagne. On a des batailles navales, on a des batailles de plaine. C'est vrai que c'est aussi un petit peu la grande époque de la cavalerie française. Donc la bataille montagneuse a disparu, et parmi une de celles qui revient à l'époque moderne, il y a donc cette bataille de Turckheim, conduite par Turenne en 1675. Là, on est dans le contexte de la prise de l'Alsace, qui va finir par rejoindre le royaume de France. Comment est-ce que Turenne a organisé cette bataille, et en quoi est-elle aussi importante dans l'histoire militaire et puis dans l'histoire militaire française ?
Alors, pour revenir sur le petit point, effectivement, des batailles médiévales, c'est étonnant. Il y a très très peu de batailles médiévales. Une des plus illustres était celle de Dorylée, une bataille des croisades. L'host royal était vraiment tourné sur la guerre de siège ou la guerre de ville. Et puis, on faisait des batailles en dehors de l'hiver. Les armées s'affrontaient, un affrontement de chevaliers, et puis on s'en restreignait là. Donc c'était mal considéré de se battre en montagne, c'était pas noble. Ce qui explique qu'il y a finalement très très peu, même dans toute l'histoire des différents pays, on trouve très très peu de batailles en montagne pendant toute cette période-là. Un peu plus tard, il y a cette bataille de Turckheim, qui est vraiment une marge de diversion dans les Vosges, où l'armée française à ce moment-là est occupée au nord en Allemagne, et puis on demande à Turckheim justement d'aller protéger toute la partie alsacienne, et donc il fait une première traversée dans les Vosges, il passe par Remiremont, il s'empare de Mulhouse et il remonte vers Colmar. Face à lui, l'armée ennemie est installée de l'autre côté d'un petit ruisseau. En ligne, en ordre de bataille, tel que ça se faisait habituellement. Et Turckheim, lui, passe par les contreforts des Vosges. Turenne, le maréchal de Turenne, passe par les contreforts des Vosges, surprend l'ennemi à Turckheim, et puis le détruit sur les côtés, alors que l'ennemi était encore dans un mode de bataille complètement figé, tel que ça se pratiquait à cette époque-ci.
Et c'est d'un point de vue de la guerre qui est conduite, c'est une bataille qui est importante, enfin, qui a joué un rôle essentiel dans la victoire finale ou qui reste secondaire?
Ah oui, complètement, parce que les troupes, la manœuvre de Turenne a d'abord été une manœuvre très audacieuse et puis très rapide. Et cette manœuvre de diversion, qui plus est en hiver, alors je vous disais tout à l'heure qu'il y a très très peu de batailles en hiver, donc que Turenne fasse cette diversion dans les Vosges, puis arrive à Turckheim, s'empare de Turckheim, les troupes coalisées du grand électeur de Brandenburg ont été totalement défaites, hein, et se sont retirées au nord de Strasbourg.
Alors, vous évoquez aussi le passage des Alpes par Hannibal. C'est un peu un passage obligé, parce que finalement, dès qu'on parle de guerre en montagne, c'est à celle-ci peut-être que l'on pense, avec les Thermopyles aussi, qui est également une guerre de montagne. Est-ce que c'est une véritable bataille, la traversée des Alpes, ou c'est uniquement la traversée de troupes, et donc finalement que ce n'est pas vraiment un fait militaire?
Alors ça, c'est une victoire déjà d'arriver à surprendre les Romains par le nord en traversant les Alpes, parce que les Romains s'attendaient à ce que toute l'armée d'Hannibal arrive par le contour de la Méditerranée, et donc arriver à surprendre les légions romaines comme ça par le nord est une vraie victoire stratégique d'Hannibal sans combattre les armées romaines. Et puis c'est une vraie bataille contre les éléments. Parce que Hannibal a laissé des dizaines de milliers de pertes en hommes, en animaux, tout au long de sa traversée.
Donc finalement, pour lui, c'est aussi une forme de défaite. Enfin, s'il y a eu beaucoup de pertes, ça peut être un succès stratégique, mais pour la victoire finale, une perte à long terme.
Non, parce que au fur et à mesure, il refaisait des alliances avec les tribus locales, allobroges, gaulois, etc. Et puis, des dizaines de milliers de morts à cette époque-ci avaient moins de poids qu'aujourd'hui.
Et alors, on arrive le 21 juin 217 à la bataille du lac Trasimène. Bon, j'ai découvert d'ailleurs que c'était une bataille de montagne, parce que c'est vrai que, comme on l'appelle, la bataille du lac Trasimène, on pense plutôt à une bataille de plaine, et pour autant c'est bien une bataille de montagne, où là c'est une grande victoire pour Hannibal. Il aurait d'ailleurs pu ensuite marcher sur Rome et prendre Rome. Mais en tout cas, l'armée romaine s'est retrouvée défaite et bien défaite par Hannibal.
Oui. Alors c'est la première grande embuscade de l'histoire et première grande embuscade en montagne où Hannibal s'est très très bien utilisé le terrain avec un dispositif complètement étendu sur toute la partie nord du lac Trasimène. Il s'est utilisé aussi le climat. Pourquoi ? Parce que quand il s'installe, il y a de la brume partout et les Romains ne le voient pas s'installer. Et il attend que les Romains arrivent le plus loin possible pour déclencher son opération avec un schéma très classique, hein, un coup d'arrêt, des forces ennemies attaquées les côtés, et puis derrière, une cavalerie prête à détruire le reste de l'adversaire. Et puis c'est une victoire d'homme avec en face de lui un empereur romain, un général romain qui est trop sûr de lui, qui ne va pas faire de reconnaissance, qui fait progresser ses éléments groupés et qui nécessairement va à la défaite.
Alors vous évoquez également le cadre de batailles dans les Balkans, notamment celle de la guerre de 1877-1878. Menée par Gourcault. Donc les Balkans, c'est une zone montagneuse extrêmement importante, avec là aussi des conditions météorologiques qui sont extrêmes. Et nous sommes donc dans le cadre des guerres balkaniques multiples de cette période, qui finalement, l'assassinat de François Ferdinand n'est qu'un des éléments de ces guerres balkaniques qui duraient depuis plusieurs décennies. Est-ce que de combattre dans les Balkans, puisque vous avez aussi été en opération dans cette zone, est-ce que c'est différent le combat des Balkans que le combat dans les Alpes, par exemple? Est-ce que la manière d'appréhender le terrain, ce terrain montagneux, est particulier par rapport à d'autres terrains montagneux?
Alors c'est moins abrupt que les Alpes du Nord, enfin moins élevé. En revanche, il y a des parties des Balkans, et notamment là où Gourcault a combattu, qui sont de vrais, enfin coupe-gorge en montagne, dans des conditions nivologiques, des conditions météorologiques très très contrariante pour le combattant. Et puis les Balkans, ça reste des terrains qui sont ouverts sur des plaines, avec subitement des mouvements de terrain qui sont des vraies barrières rocheuses.
Vous évoquez aussi, alors là au XXe siècle, les guerres d'Afghanistan. L'Afghanistan est peut-être un élément aussi intéressant par rapport à la guerre de montagne, c'est qu'il y a le fait de mener une bataille. Et puis il y a le fait de tenir ensuite un terrain, et on l'a vu, alors les Anglais ont tenté de prendre l'Afghanistan, après les Soviétiques, après la coalition américano-occidentale, et si on arrive, ou si les armées modernes arrivent à gagner une bataille, en revanche tenir le terrain et contrôler le terrain est beaucoup plus compliqué. Et oui. On en revient à ce qu'on disait en début d'émission sur cette guerre asymétrique, où finalement le partisan ou le révolutionnaire est avantagé dans un espace qui est beaucoup plus difficile à contrôler et à tenir.
Oui, puis c'est un espace surtout qu'il connaît, qu'il maîtrise parfaitement, et bien souvent c'est lui qui a la maîtrise aussi du feu et de l'attaque. Sur l'envahisseur, sur la personne qui est là pour sécuriser la zone. Et puis les partisans travaillent souvent par des petites équipes, alors que nos coalitions étaient beaucoup plus nombreuses dès qu'elles étaient engagées, qu'elles furent anglaises au XIXe siècle, russes, soviétiques, américano-occidentales aujourd'hui.
Alors vous évoquez la connaissance du terrain. On avait réalisé il y a quelques mois une émission avec Gérard Chalian, que nos auditeurs peuvent les retrouver dans nos archives. Vous évoquez justement le fait qu'au XIXe siècle, les troupes coloniales restaient plusieurs années sur place et donc connaissaient parfaitement le terrain et les cultures locales, et qu'aujourd'hui, pour des raisons stratégiques et de repos aussi des hommes, les troupes restent sur des temps beaucoup plus courts, et donc finalement la connaissance du terrain est moins profonde, et parfois la connaissance se perd dans la relève des hommes. Donc ça peut être aussi un élément négatif dans le fait de tenir un terrain ou de gagner une bataille.
Oui, mais après ça c'est aussi valable en zone urbaine par exemple. Et cette connaissance du terrain, Ça a été d'ailleurs à la création des troupes alpines en 1888, rappelons-le, ça a été un des éléments fondamentaux qui ont dit mais regardez, aujourd'hui les fantassins français ne connaissent plus le terrain, alors que Vauban quelques décennies avant avait fait construire des redoutes fortifiées sur différents passages des Alpes.
L'usage de l'hélicoptère, c'est quelque chose qui a profondément changé la manière de faire la guerre en montagne. C'est beaucoup plus maniable qu'un avion. Il peut s'approcher aussi plus proche du terrain.
Oui, alors on parlait tout à l'heure des mulets ou des chevaux qui nous aidaient à transporter le matériel. Aujourd'hui, c'est sûr que l'hélicoptère, quand les conditions météorologiques le permettent, autorise les troupes alpines à s'affranchir de toute problématique de terrain. On peut aller d'un mouvement de terrain à l'autre, on peut franchir un col, on peut apporter du matériel, on peut avoir de l'appui aérien aussi avec les tigres. On sait très bien que nos tigres en Afghanistan ont fait un travail exceptionnel. Et donc cet hélicoptère nous permet à la fois la manœuvre, mais aussi le feu.
Et on l'a vu, puisqu'on parle d'hélicoptère, le dernier grand accident dans les zones sahéliennes, c'était justement un accident d'hélicoptère, oui. Il y a eu ce choc de deux hélicoptères français pris dans une tempête de sable. Et donc, effectivement, ça reste un appareil qui est délicat à manier.
Ouais.
Pour les conducteurs...
Et puis, je me permets de faire une petite parenthèse avec nos commandos montagne qui étaient à bord, pour une grande partie d'entre eux.
Ouais. Et justement, ceux qui conduisent les appareils, ce sont des gens qui sont rattachés des militaires qui sont rattachés aux troupes de montagne ou bien à d'autres sections, armée de l'air ou d'autres.
Alors, il existait il y a quelques années une escadrille de haute montagne, mais qui n'existe plus maintenant. Aujourd'hui, toute la partie aérocombat est traitée par la 4e BAC, 4e brigade d'aérocombat, donc qui a tous les hélicoptères de l'armée de terre. Nos troupes alpines s'entraînent pratiquement tous les mois avec les hélicoptères de la 4e BAC en montagne, et on a une vraie coopération entre la 27e brigade d'infanterie de montagne et la 4e brigade aérocombat. Et on sait, les personnels de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, savent comment nous manœuvrons en montagne, et nous savons comment se faire récupérer, comment se faire appuyer par le feu en montagne, par ces exercices très fréquents. Vous avez en octobre ou en février, maintenant c'est plutôt en octobre, un immense exercice qui s'appelle l'exercice CERS, au-dessus de Valoire en Savoie, où là vous avez un exercice interarmées où les chasseurs alpins, les artilleurs de montagne, les sapeurs, les cavaliers travaillent conjointement à un exercice à tir réel avec l'ALAT et avec l'appui-feu aérien.
Et ça suppose aussi une très bonne coordination des hélicoptères et des troupes au sol pour que une coordination des tirs.
Oui,
et...
absolument. Oui, oui. Toutes nos unités sont formées avec ce qu'on appelle des JITAC, des sous-officiers qui coordonnent l'appui-feu. Qui la plupart d'entre eux viennent du 93e régiment d'artillerie de montagne.
Et pour les hélicoptères, il y a les hélicoptères de transport de troupes, d'autres qui sont davantage axés sur le feu, donc sur l'action.
Oui.
Vous avez évoqué le Tigre, il y a d'autres modèles également d'hélicoptères utilisés ?
Non, mais ce sont ceux avec lesquels l'armée française travaille, et puis avec lesquels on est vraiment ce qu'on appelle interopérable entre la brigade de montagne et la brigade d'aérocombat.
Et en matière de transport de troupes, combien de personnes à peu près peuvent rentrer dans ce...
Donc vous avez un Puma qui, grosso modo, contient une dizaine à une douzaine de combattants. Et puis demain, le NH90, donc qui emportera plus de monde.
Alors, donc ça c'était pour la guerre en montagne à travers... Pardon.
Oui, ce qui est très intéressant de cette spécificité, je me permets une dernière parenthèse sur l'aspect technique montagne, c'est que... On a décrit souvent le premier cercle. Là, on est sur de l'interopérabilité avec la 4e brigade d'aérocombat. Mais vous avez aussi le second cercle de montagne avec un régiment du matériel, le 7e régiment du matériel, qui est spécialisé aussi dans le combat en montagne. Le 2e régiment médical. Et enfin, le 511e régiment du train qui a un escadron qui est spécifique au combat en montagne. Donc, vous voyez que la brigade de montagne arrive à travailler sur différents cercles lorsqu'elle est engagée en combat.
Et toutes ces zones, après, enfin toutes ces troupes peuvent être projetées ensuite sur les terrains d'opération en Afghanistan
ou
en Sahel aujourd'hui.
Oui, former des groupements tactiques interarmes.
Alors, je voulais terminer cet entretien pour évoquer donc ce service dont vous êtes le chef d'état-major, qui est le service militaire volontaire. Donc, on s'éloigne un petit peu de la guerre en montagne et de l'histoire de la guerre en montagne, mais c'est extrêmement intéressant aussi. C'est un service qui n'est pas forcément connu de la part de nos auditeurs, mais qui me paraissait intéressant d'évoquer parce que ça peut intéresser nos auditeurs. Et puis, il est bon aussi de voir cette dimension de l'armée française aujourd'hui. Donc ça, c'est un service où vous formez des personnes plutôt jeunes pour ensuite les insérer dans le monde civil.
Oui, donc c'est un service qui est très jeune, le service militaire volontaire. Il date de 2015 et ça a été une volonté politique de copier un petit peu ce qui existe dans les départements et communautés d'outre-mer, donc qui s'appelle le service militaire adapté. Donc nous recrutons dans 5 régiments ou centres en France métropolitaine, environ 1200 jeunes par an, que nous resociabilisons, que nous reformons et à qui nous donnons des règles de vie pendant un mois avec une formation militaire. Ensuite, ils ont une formation complémentaire de 2 mois. Et après, on les inscrit sur une formation professionnelle qu'ils auront préalablement choisie. Et ils ont entre 3 et 8 mois de formation professionnelle avant de sortir et d'être réinsérés. Avec des résultats qui sont logiques parce que nous sommes à 74% de taux d'insertion.
Ce sont des jeunes de quel âge environ ?
18 à 25 ans.
Et donc, quelqu'un qui voudrait intégrer, il postule, il y a un examen, un entretien de...
Il y a un entretien de recrutement, sachant que les conditions sont quand même beaucoup moins strictes qu'un jeune engagé qui vient, notamment au plan physique. Et puis, nous, on cherche des jeunes adultes de la République qui sont un peu perdus. Donc on a des normes un peu plus tolérantes, mais il faut qu'ils puissent suivre la formation militaire qu'on leur donne, sachant que c'est comme une formation de soldat, à l'exception du combat et du tir.
Donc c'est une formation militaire, mais pour des jeunes qui sont après insérés dans
le milieu civil pour 98% d'entre eux.
Et donc quelqu'un qui voudrait postuler, il va dans les CERFA ou dans les...
Alors il peut poser des questions au sein du CERFA local. Après il y a 5 centres en France. Il y a 3 régiments, donc un régiment à Montigny-lès-Metz qui a une antenne à Châlons-en-Champagne, un régiment à Brétigny-sur-Orge, un régiment à La Rochelle, ça sont 3 régiments terre. On a un centre du service militaire volontaire air à Amberieu-en-Bugey auprès de Lyon et enfin un centre du service militaire marine à Brest. Ou autrement, il faut regarder sur le site le-smv.fr.
Voilà, donc le service militaire volontaire. Eh bien, merci beaucoup, colonel Cyril Becker, d'avoir évoqué pour nous, donc, et pour Conflit, les batailles en montagne. Alors, je rappelle votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Pierre de Taillac, mais encore une fois, toutes les références sont sur le site de Conflit, les plus grandes batailles en montagne de l'Antiquité à nos jours. Et chez Pierre de Taillac, vous avez publié 2 autres ouvrages consacrés également à la guerre en montagne, aux origines de l'alpinisme militaire et un ouvrage sur les bataillons de chasseurs alpins où vous présentez à la fois leur histoire, leur tradition. Pour ceux qui sont directement intéressés par les chasseurs alpins, ils auront tout d'un point de vue militaire, stratégique, tradition et culture sur les chasseurs alpins.
Merci.
Merci pour votre fidélité à nos émissions et nous nous retrouvons la semaine prochaine.